Chapitre 9. Éclectiques et sceptiques. Philosophes qui voulurent n'appartenir à aucune école. Philosophes qui décrièrent toutes les écoles et toutes les doctrines. Les deux tendances. Comme il devait arriver et comme il arrive toujours, la multiplicité des sectes devait amener deux tendances. L'une qui consiste à prendre un peu arbitrairement dans chaque secte ce que l'on y trouve de meilleur, et cela s'appelle éclectisme. L'autre qui consiste à penser qu'aucune école n'a saisi le vrai, et que le vrai est insaisissable, et cela s'appelle le scepticisme. Les éclectiques. Plutarque. Les éclectiques qui ne forment pas une école, ce qui serait difficile avec l'esprit qui les dirigeait, avaient ceci seulement de commun qu'ils vénéraient les penseurs de l'ancienne Grèce et qu'ils avaient, ou s'efforçaient d'avoir, des respects et des condescendances pour toutes les religions. Ils vénéraient Socrate, Platon, Aristote, Épicure, Xénon, Moïse, Jésus, saint Paul, et aimaient à se figurer qu'ils étaient chacun une révélation partielle de la grande pensée divine, et ils s'essayaient à concilier, en procédant par grandes lignes et par vue d'ensemble, ces diverses révélations. Ils s'appelaient Moderatus, Nicomaque, Némésius. Le plus illustre, sans qu'il soit le plus profond, mais son talent littéraire l'a maintenu en lumière, est Plutarque. Son principal effort, à lui, bien souvent renouvelé depuis, a été de concilier la raison et la foi, je parle de la foi polythéiste. Voyant dans la mythologie des allégories ingénieuses, il démontrait qu'à titre d'allégorie, recouvrant et contenant des idées profondes, la raison d'un platonicien, d'un aristotélicien, d'un stoïcien, pouvait accepter tout le polythéisme. Les éclectiques n'eurent pas beaucoup d'influence et ne plurent qu'à deux familles d'esprits. À ceux qui aiment savoir plutôt qu'avoir une conviction et qui trouvaient dans l'éclectisme une agréable variété de points de vue, à ceux qui aiment croire un peu à tout et qui ont l'esprit naturellement hospitalier et très peu ferme et qui ne sont pas éloignés d'être sceptiques et que j'appellerais des sceptiques affirmatifs par opposition aux sceptiques négatifs, des sceptiques disant « Mon Dieu, oui !» par opposition aux sceptiques disant toujours « plutôt non ». Les sceptiques. Pyrrhon. Les sceptiques, proprement dit, remontaient chronologiquement plus haut. Le premier sceptique célèbre est contemporain d'Aristote. Il suivit Alexandre dans sa grande expédition d'Asie. C'est Pyrrhon. Il tint école assez obscurément, semble-t-il, à Athènes, et eut pour successeur Timon. Ces philosophes, comme tant d'autres, cherchaient le bonheur et ils affirmaient qu'il était dans l'abstention de juger, dans l'esprit restant en suspens, dans le ne rien dire. Aphasie. Pyrrhon, ayant accoutumé de dire qu'il était indifférent de vivre ou d'être mort, si on lui demandait « Alors pourquoi vis-tu ?» répondait « Mais précisément parce qu'il est indifférent de vivre ou d'être mort. » Comme on peut croire, leur jeu favori était d'opposer les écoles entre elles, de battre les unes par les autres, de montrer qu'elles étaient toutes fortes dans ce qu'elles niaient et faibles dans ce qu'elles affirmaient, et de les renvoyer dos à dos. La nouvelle académie. Le scepticisme, mais atténué, adouci et surtout moins agressif, se retrouva dans une école qui s'intitulait la Nouvelle Académie. Elle prétendait se rattacher à Socrate, non sans quelque raison, puisque Socrate avait assuré que la seule chose qu'il sut était qu'il ne savait rien, et elle tenait essentiellement à ne rien affirmer. Seulement, les académiciens croient qu'il y a des choses probables, plus probables que d'autres, et ils sont les fondateurs du probabilisme, qui n'est pas autre chose que la conviction accompagnée de modestie. Ils étaient plus ou moins modérés, selon leur tempérament personnel. Arcésilas l'était beaucoup et se bornait à développer le sens critique chez son élève. Carnéade était plus négateur et en arrivait ou revenait à être un sceptique et un sophiste pur et simple. Cicéron, avec un certain fond de stoïcisme, a été l'élève des plus modérés, des nouveaux académiciens. Énésidème, Agrippa, Empiricus. D'autres se fondaient sur l'expérience même, sur l'incertitude de nos sensations et observations, sur tout ce qui peut nous piper et nous faire illusion, pour faire éclater combien la connaissance humaine est relative et misérablement partielle. Tel Énésidème, qu'on croirait que Pascal a lu, tant Pascal, quand il n'est pas dans la foi et quand il prend position de sceptique, précisément pour établir qu'il faut se réfugier dans la foi, donne exactement toutes les raisons d'Énésidème. Tel encore Agrippa, tel encore Sextus Empiricus, si souvent critique de la science, qui démontre, comme un peu de nos jours M. Henri Poincaré, que toutes les sciences et même les plus orgueilleuses de leur certitude, comme la mathématique et la géométrie, reposent sur des conventions et des commodités intellectuelles.